Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La grève générale demain en Tunisie, dans le secteur public et la fonction publique, un mouvement à l'appel de la centrale syndicale UGTT. La Tunisie où les magistrats sont en grève, un juge membre de l'autorité électorale a démissionné lundi en solidarité avec ce mouvement, mouvement soutenu par l'avocat et ex-député Samir Dilou que nous écouterons. La France en proie à une vague de chaleur, une situation difficile notamment pour les personnes sans abri. Nous écouterons Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris, en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion. Il manque 30 000 poches de sang en France pour répondre aux besoins. L'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Le professeur Jacques Chiaroni, directeur régional PACA Corse de l'EFS, sera l'un de nos invités. Grève générale demain dans le secteur public et la fonction publique en Tunisie. L'UGTT demande notamment l'annulation de la contribution sociale de solidarité de 1% et la finalisation des négociations concernant les agents du secteur public. La grève générale sera notamment observée par les entreprises sous la tutelle du ministère des Transports. Une grève soutenue par plusieurs organisations également en France, comme le droit au logement, la Ligue des droits de l'homme ou encore le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. La Tunisie, où les magistrats sont en grève depuis plus d'une semaine, un juge membre de l'autorité électorale en Tunisie a démissionné lundi en solidarité avec ce mouvement. Il s'agit de protester contre la révocation par le président tunisien de 57 magistrats, mouvement soutenu par l'avocat et ex-député tunisien Samir Dilou.
Les juges n'avaient pas vraiment le choix. Il faut savoir que c'est la première fois que toutes les instances représentatives des juges font front commun. Et c'est inédit. On est en fait en face d'un mouvement très très suivi et c'est un ras-le-bol parce que en fait le président de la République veut mettre sur le pas les juges et avec la décision de révoquer 57 juges, il ne leur a laissé aucun choix sauf le choix de la résistance.
Des juges accusés notamment de corruption par le président tunisien.
En fait, parmi les 57 juges, il y avait 45 juges sur lesquels il n'y avait aucun grief, il n'y avait aucun dossier. Donc ça dit tout. Tous les juges qui ont refusé d'appliquer les décisions de M. Kais Saied de poursuivre ses opposants, de mettre ses opposants en prison, comme les députés, d'intervenir dans des dossiers bien spéciaux. Donc, ils ont été punis, révoqués. La lutte contre la corruption était tout simplement un alibi.
Et comment avez-vous accueilli la démission du juge Habib Rebaï, qui était membre de l'instance supérieure indépendante pour les élections, une démission qui intervient 6 semaines avant le référendum du 25 juillet prochain?
C'est une décision à la fois courageuse, mais elle est très significative, parce que ce n'était pas un juge élu, mais désigné par M. Kais Saied. C'est le cas des membres du Conseil supérieur de la magistrature désigné par Kais Saied, et malgré ça, il n'a pas été regardé d'un bon œil par M. Kais Saied, parce que pour M. Kais Saied, même ceux qui les désignent, s'ils n'appliquent pas à la lettre sa volonté, ses décisions, il va vite soit les révoquer, soit les traiter de tous les noms. Donc cet acte, c'est un acte courageux.
Comment accueillez-vous ce référendum du 25 juillet prochain, référendum sur une nouvelle constitution ou sur des amendements constitutionnels?
Normalement, la Commission doit présenter la copie zéro de la Constitution à l'instance de M. Sadr Belaïd. Alors que jusqu'à maintenant, cette commission n'a pas encore été formée, parce que tous ses membres ont refusé d'y siéger, et aucun article de cette prétendue constitution n'a été rédigé.
Et vous, Samir Dilou, vous faites part de votre inquiétude sur l'état des libertés aujourd'hui en Tunisie?
Je suis très 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 inquiet. On n'est pas en train de juger des opposants par dizaines de milliers. Mais c'est la folie. C'est la... Il n'y a aucune raison. Et M. Kais Saied, à la différence de ses prédécesseurs, il est en train de démanteler l'État, les institutions de l'État en bonne et due forme. Donc Kais Saied est un danger pour la Tunisie. Il faut résister en usant de moyens pacifiques. Mais il faut résister, sinon cette folie de Faisal, il va venir à bout des institutions de la République tunisienne et on va se retrouver avec une République de M. Faisal et de quelques éléments aussi zélés que lui.
Et sur la situation économique et sociale, vous soutenez la grève initiée par l'UGTT jeudi prochain, le 16 juin ?
Oui, comme un acte ultime, mais la situation est catastrophique et la confrontation entre la puissante centrale syndicale et le gouvernement et le pouvoir de M. Kais Saied est inéluctable.
Aujourd'hui, quelles mesures socio-économiques préconisez-vous pour la Tunisie en proie à une crise économique et également à une inflation importante liée à la guerre en Ukraine?
Je crois que le temps de parler de simples mesures est révolu, est passé. Maintenant, il faut trouver une solution sur le plan macro-politique. Il faut trouver une solution avec Kais Saied et à défaut sans Kais Saied, pour pouvoir former un gouvernement de salut national, pour prendre justement ces mesures économiques urgentes. Mais malheureusement, M. Kais Saied a la tête ailleurs. Il pense à prendre le maximum de pouvoir, de prérogatives, mais il est inconscient des dangers socio-économiques.
Et vous, Samir Dilou, ex-député de l'Assemblée des représentants du peuple, il vous est aujourd'hui interdit de quitter le territoire tunisien ?
Ah oui, j'ai un passeport, mais je n'ai pas le droit d'utiliser et de répondre à vos questions dans vos studios à Paris, parce que juste après la révocation des juges, des 57 juges, je crois 4 heures, après cette décision, la ministre de la Justice a fait beaucoup de pression sur un substitut du procureur de la République du tribunal de Tunis pour prendre une décision justement d'interdiction de quitter le territoire pour 121 députés dont je fais partie.
Cette décision vous a-t-elle été expliquée ?
Non, du tout. On l'a pris par nos propres moyens. D'ailleurs, c'est pas des prérogatives du substitut du procureur de prendre cette décision, parce que le dossier est dans le bureau d'un juge, du juge d'instruction, le doyen du juge d'instruction. D'ailleurs, le doyen du juge d'instruction fait partie des juges qui ont été révoqués. Donc, ça dit tout sur cette prétendue justice.
Et vous ne savez pas quand vous pourrez de nouveau quitter le territoire tunisien ?
Aucune idée.
L'avocat et ex-député tunisien Samir Dilou. Le ministre algérien des Finances a été limogé par le président Tebboune. Abderrahman Rahouia était en fonction depuis 4 mois. Il s'agissait de son 3e passage à la tête de ce ministère. L'aide humanitaire dans le nord de la Syrie. Une trentaine d'ONG appellent au renouvellement de l'autorisation transfrontalière permettant l'acheminement de cette aide. Une demande dans une lettre ouverte au Conseil de sécurité de l'ONU. Un important chef terroriste est capturé au Mali en zone frontalière par des soldats français. Cela arrive au moment où les soldats entrent dans la dernière phase de leur retrait du pays. Oumeya Ould Al-Bakaye est un haut responsable de Daesh au Grand Sahara. La France en proie à une vague de chaleur cette semaine. Certaines catégories de personnes sont plus vulnérables face à cette situation. Les personnes sans abri sont notamment très touchées. Entretien avec Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris, en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion. Léa Filoche.
C'est vrai que pour les personnes à la rue, la vie est difficile toute l'année, quand il fait froid, mais aussi quand il fait chaud. C'est pour ça que ça fait quelques années, en lien avec des partenaires, avec les maraudes, avec les associations, mais aussi en lien avec l'État, on a un certain nombre de dispositifs qu'on essaye de mettre en place pour que les personnes qui sont en situation de ne pas avoir de solution d'hébergement puissent quand même trouver des outils à portée de main, de façon à essayer de rendre moins douloureux et moins difficiles les périodes, encore une fois, soit de grand froid, soit de grande chaleur.
Et est-ce qu'il y a un dispositif particulier mis en place cette semaine durant cette période de forte chaleur ?
Tout à fait, on est très mobilisés avec les services de la ville qui interviennent de manière un peu plus renforcée dans les maraudes, qu'on rallonge de manière nocturne. On a des distributions de gourdes, de 10 000 gourdes et puis de casquettes qui sont prévues aussi. et puis surtout du lien social, du lien vivant, du lien humain, avec des maraudes qui sont particulièrement renforcées et qui apportent des discours et des propos de gestes simples qui renvoient vers les dispositifs existants. Donc on a les bains-douches qui sont des lieux où les personnes peuvent venir se rafraîchir soit le matin, soit l'après-midi. On a des espaces de solidarité d'insertion. Il y a aussi des lieux rafraîchissants avec des boissons distribuées dans ces espaces solidarité d'insertion qui sont des accueils de jour, en fait, hein, et dans lesquels il y a aussi des douches. Et puis, ensuite, en lien, en fonction de la météo et des différents niveaux du plan canicule, un certain nombre de dispositifs peuvent venir se renforcer encore. Il peut y avoir une mise en place d'un certain nombre de fontaines, mais aussi des espaces ouverts dans les mairies d'arrondissement. On a aussi des lieux qui servent de points de rencontre pour éventuellement se rendre vers des brumisateurs ou dans des espaces verts qu'on ouvrirait si le plan canicule devait venir à se renforcer. Voilà, donc c'est ça, ça monte en grade au fur et à mesure que les températures augmentent. Notre propre dispositif et notre propre intervention dans l'espace public auprès des publics vulnérables, lui aussi, monte en puissance.
Et conseillez-vous aux riverains d'établir un dialogue avec les personnes sans abri croisées dans la rue?
Absolument, mais ça toute l'année on conseille. Alors en particulier dans les moments effectivement où la météo fragilise encore plus les publics, mais ce qui fait la force à Paris de nos dispositifs, c'est aussi la solidarité des Parisiens. Et on sait qu'on peut compter sur elles et eux, et que le lien social, le lien humain, encore une fois, est ce qu'il y a de plus précieux quand on est à la rue, c'est de pouvoir avoir l'occasion d'échanger. Donc évidemment, que les Parisiennes et les Parisiens n'hésitent pas à aller vers eux, ça sera toujours un moment agréable pour la personne qui peut être dans une situation d'isolement important et puis qui peut ne pas reconnaître des symptômes liés aux effets de la canicule. Donc ne pas hésiter à lui demander s'il a soif, s'il connaît un lieu plus frais dans lequel il pourrait se rendre en journée et ou en nuit. Et si éventuellement il a besoin qu'on l'y accompagne.
Le regard porté sur ces personnes est important aussi. Chacun d'entre nous peut un jour ou l'autre se retrouver dans cette situation.
La bascule malheureusement peut effectivement se faire très rapidement et sans même qu'on ait imaginé une seule fois que ça puisse nous arriver. On l'a constaté en particulier avec les effets de la crise sanitaire que le glissement vers la grande exclusion peut malheureusement arriver très vite pour tout un tas de publics divers. Et donc, mais c'est une responsabilité, encore une fois, des pouvoirs publics, d'éviter, non seulement d'éviter que les personnes tombent dans la grande exclusion, mais aussi de faire en sorte qu'elles puissent en sortir. Ce que chacun de nous peut faire en tant que citoyen, c'est avoir des gestes d'humanité pour savoir si la personne va bien, si elle a besoin de quelque chose, tout de suite ou plus tard, et puis éventuellement, effectivement, lui prodiguer quelques conseils de boire beaucoup, de se mettre à l'ombre ou dans les lieux ouverts spécifiquement et puis de pouvoir reconnaître les effets d'une canicule sur le corps humain qui sont parfois pas faciles à diagnostiquer.
Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion. Plus de 520 000 élèves planchent ce mercredi sur la philosophie, la seule épreuve commune du bac pour les élèves de terminale. Les sujets du bac général sont: les pratiques artistiques transforment-elles le monde et revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Le sujet d'explication de texte porte sur un extrait de l'essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique d'Antoine Augustin Courneau. Les lycéens de terminale technologique ont le choix entre la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ou est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens, et une explication de texte sur un extrait de l'encyclopédie de Diderot. Les personnels de 3 bases françaises de la compagnie aérienne Ryanair ont déposé un préavis de grève illimité, notamment pour le 14 juillet prochain et les vagues de départ des vacances d'été. Il s'agit des bases de Beauvais, Marseille et Toulouse. Cet appel à la grève pourrait ainsi menacer de nombreux vols à destination du Maroc, de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie ou encore du Portugal. Des vols vers l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse pourraient aussi être perturbés. Les salariés demandent une revalorisation des salaires et de meilleures conditions de travail. La journée mondiale des donneurs de sang. Hier, l'établissement français du sang a lancé une nouvelle campagne intitulée « Donneurs de sang, tous soignants ». À l'approche des vacances, il manque, d'après l'organisme, 30 000 poches dans les stocks. L'établissement français du sang explique avoir besoin de 10 000 dons chaque jour pour sauver des vies. Entretien avec le professeur Jacques Chiaroni, directeur régional PACA Corse de l'établissement français du sang.
L'état des stocks est très préoccupant. Il nous manque 30 000 poches au niveau national. Et il est vrai que nous sommes très préoccupés dans la mesure où nous allons aborder la période estivale avec un niveau assez bas si nous n'arrivons pas dans les semaines qui viennent à récupérer ces 30 000 poches qui sont vraiment importantes parce qu'on sait que durant la période estivale, les gens partent en vacances, oublient de donner leur sang et évidemment on a une fréquentation qui est moins importante pendant cette période. Et en plus, ça vient sur un fond de niveau de fréquentation particulièrement bas maintenant depuis la période Covid. Il faut dire ce qui est.
Il n'y a pas eu de reprise depuis la crise sanitaire. Les habitudes ont été perdues, les bonnes habitudes?
Si vous voulez, l'établissement français du sang a été durablement marqué par cette crise et nous rencontrons des difficultés à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les difficultés de recrutement des donneurs. En ce qui concerne notre offre de collecte, eh bien, nous devons reconstruire un petit peu notre stratégie dans la mesure où une des grandes sources de prélèvement étaient les entreprises. Vous savez qu'une grande partie maintenant, eh bien, il y a du télétravail, donc il va falloir que nous réfléchissions comment retrouver ces donneurs qui donnaient sur leur lieu de travail. Et enfin, nous avons des difficultés de recrutement de personnel. Comme c'est le cas partout, vous avez pu le voir dans le monde de la santé, eh bien, nous n'y achèterons pas. Et nous avons des postes non pourvus en médecins, en infirmières, enfin tout cela contribuant évidemment à des difficultés d'organisation qui collent aussi difficilement à une évolution du mode de vie de la population.
Donc la crise à l'hôpital aujourd'hui en France a des conséquences également sur les dons de sang.
La crise à l'hôpital a des conséquences, mais la crise, je dirais, dans la société en général, hein, évidemment, a un impact sur le don. Mais ce qu'on retrouve à l'hôpital d'un point de vue personnel de santé, eh bien, nous en faisons partie et nous rencontrons aussi ces difficultés.
Pouvez-vous nous rappeler les conditions pour donner son sang?
Il faut évidemment être âgé de 18 à 70 ans, et il faut peser au moins 50 kilos, il faut être en bonne santé, et ça, l'entretien préalable permettra d'évaluer l'aptitude à donner son sang. Et puis, il ne faut pas oublier que pour le don de sang, il ne faut pas être à jeun. Et dans le même temps, et surtout dans cette période de canicule, je dirais, il ne faut pas oublier de bien s'hydrater. Alors évidemment, on proposera une hydratation lorsqu'on vient donner son sang, mais il est important vraiment de bien boire.
Et pour ceux qui ne le connaissent pas, cela permet aussi de connaître son groupe sanguin?
Absolument. Quand on vient donner son sang, un certain nombre d'analyses sont réalisées, dont son groupe sanguin, parfois même au-delà du groupe sanguin. On va avoir donc une carte de groupe sanguin. Et parfois, ça permet de détecter même des groupes sanguins rares, ce qui est important.
Le professeur Jacques Chiaroni, directeur régional PACA Corse de l'établissement français du sang. Fin de cette édition, il est midi 18, vous êtes bien sur Radio Orient. À midi 30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.